Comment expliquer la chute du nombre de nobles ? Revenons à la question de la baisse des effectifs. Comment expliquer que l'importance numérique du clergé, et plus encore de la noblesse, se réduise en France pendant le dernier siècle de l'Ancien Régime ? Disons-le d'emblée, les sources disponibles ne permettent pas de répondre à cette question de façon parfaitement précise et convaincante. Pour autant, les pistes d'explication ne manquent pas. On peut d'abord y voir la conséquence générale d'un processus de long terme lié à la formation de l'État centralisé et à la délégitimation graduelle des fonctions cléricales et nobiliaires. Des facteurs politico-idéologiques propres à chaque époque ont également joué un rôle dans cette évolution que nous retrouverons dans ces grandes lignes pour d'autres pays européens, en particulier pour le Royaume-Uni et la Suède, mais avec des variations intéressantes dans les chronologies et les modalités. Dans le cas de la France, il est probable que la forte baisse observée à partir du milieu du XVIIe siècle est au moins pour partie la conséquence d'une politique délibérée menée par une monarchie absolue alors en plein essor et en pleine affirmation. D'ailleurs, l'objectif des grandes enquêtes sur la noblesse et le clergé lancées dans les années 1660-1670 sous Louis XIV et Colbert était précisément de permettre à l'État centralisé en formation de prendre la mesure des ordres privilégiés et d'une certaine façon d'en prendre le contrôle. À partir du moment où l'on sait dénombrer et définir qui est qui, ou tout du moins que l'on fait des progrès dans cette direction, cela signifie aussi que l'on est capable d'influer sur les contours de ces catégories et de négocier les appartenances et les droits. De fait, la couronne entreprend dans le même temps de durcir les règles d'appartenance à la noblesse, en exigeant par exemple, dans le cas de la Déclaration royale de 1664, des preuves authentiques pour la noblesse qui se prétend antérieure à 1560, preuves dont elle tente non sans mal de définir les contours et les formes autorisées. Plus généralement, à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, la monarchie française multiplie les efforts pour restreindre les effectifs de la noblesse. Les motivations étaient à la fois politiques, il s'agissait de montrer que l'État centralisé en formation n'avait pas besoin d'une noblesse pléthorique et oisive, et budgétaires, puisqu'en réduisant le nombre de nobles, on diminuait d'autant les exemptions fiscales. La capitation créée en 1695 permettait certes de mettre à contribution la noblesse, au moins en partie, mais la classe nobiliaire demeura exemptée de nombreux impôts royaux jusqu'en 1789, et notamment de la taille. Seule une restriction des conditions de reconnaissance comme noble pouvait donc augmenter les recettes de ce côté-là. Les efforts accomplis en ce sens resteront toujours inachevés, puisque la monarchie ne contrôlait que très imparfaitement les institutions et processus juridictionnels et administratifs locaux établissant les exemptions, et ne pouvait ou ne voulait prendre le risque de se couper du cœur de la noblesse. Si bien que la question ne sera vraiment réglée qu'à la Révolution. Mais le fait est que le processus avait été enclenché longtemps auparavant, non sans difficulté. La monarchie contribua aussi, par petites touches, à rapprocher les anciennes élites nobles et guerrières et les nouvelles élites marchandes et financières, d'une part en vendant des charges et offices, parfois accompagnés de titres de noblesse, à ceux qui avaient les disponibilités financières, et d'autre part, en permettant aux nobles de diversifier leurs activités sans déchoir de leurs titres, en décrétant par exemple en 1627 que le commerce maritime n'était plus déshonorant pour les gentilshommes, décision étendue aux banques et manufactures en 1767. Ce processus graduel d'unification et de monétisation des élites, qui trouvera en quelque sorte son aboutissement avec les régimes censitaires en vigueur au XIXe siècle, où l'ampleur des propriétés et des impôts acquittés deviendra le nouveau fondement du pouvoir politique, paraît déjà engagé au XVIIe et XVIIIe siècle, en même temps que les effectifs du groupe nobiliaire traditionnel commencent à décliner. Il semble cependant difficile d'attribuer la totalité de la baisse des effectifs de la noblesse à l'action délibérée de l'État centralisé et de ceux qui en avaient le contrôle. Compte tenu de la chute brutale constatée entre 1660 et 1780, il est probable que d'autres facteurs, à commencer par les stratégies des nobles eux-mêmes, aient joué un rôle important, sinon prépondérant. De nombreux travaux ont ainsi montré que la classe nobiliaire tend à adopter un comportement démographique de plus en plus malthusien au cours du XVIIIe siècle, avec à la fois une baisse du nombre d'enfants par couple et une hausse du célibat parmi les fils cadets et les filles. Au même moment, on observe en France et dans d'autres pays européens une tendance à généraliser la primogéniture, c'est-à-dire à concentrer de plus en plus la transmission de la propriété sur le seul fils aîné, à la façon de la noblesse anglaise, alors que les pratiques successorales françaises, et ailleurs en Europe, avaient toujours été plus diversifiées et variables suivant les provinces. Le célibat croissant des cadets et la concentration des transmissions en faveur des aînés semblent également s'accompagner d'un accaparement de plus en plus fort des fonctions au sein du haut clergé. Plus de 95% des évêques sont issus de la noblesse au XVIIIe siècle, alors que la proportion était de 63% au début du XVIIe siècle et de 78% à la fin du siècle. On pourrait être tenté d'analyser ces évolutions comme un choix offensif, conscient ou non, voire une affirmation de puissance de la part des familles nobles et de leurs chefs, à l'anglaise. Dès lors que l'État centralisé garantit le respect du droit de propriété à une vaste échelle, sans qu'il soit nécessaire d'avoir de nombreux fils pour prendre les armes et défendre son fief et sa position, autant concentrer le pouvoir au sein d'une élite de plus en plus étroite et éviter les partages et les émiettements à répétition. Une élite pléthorique n'est pas une élite. Mais ces stratégies familiales malthusiennes peuvent aussi se lire comme la conséquence défensive d'une peur du déclassement. Dans un contexte de forte croissance démographique, d'expansion économique et de diversification des élites, aux nobles et aux clercs, sont venus s'ajouter les robins, les marchands, les financiers et les bourgeois de toutes sortes, le fait de restreindre la taille de sa descendance et de concentrer les héritages peut apparaître comme la seule façon pour la noblesse de maintenir son rang relativement au nouveau groupe. Les sources disponibles sont trop limitées pour qu'il soit possible de connaître avec précision le rôle joué par ces différents facteurs, perception et motivation. Il est toutefois frappant de constater que les querelles de protocole et les conflits sur les rangs et les préséances, loin de disparaître, semblent plutôt se durcir à la fin de l'Ancien Régime. Dans un contexte de transformation d'un régime hiérarchique et inégalitaire, marqué par la centralisation croissante et la constitution de l'État moderne, et par de multiples remises en cause des positions individuelles, on aurait tort d'imaginer la communion des différentes élites unies par la grâce de l'équivalent monétaire universel, de la rationalité économique et de la maximisation de la concentration de la propriété. Lors de l'entrée royale à Paris de 1660, les querelles classiques entre gentilshommes d'épée et de robe se doublaient déjà de multiples conflits internes à la grande chancellerie, institution qui jouait à la fois le rôle de ministère de la justice et d'administration centrale de la monarchie. Les gardes des rôles, en charge des multiples registres et listes administratives et fiscales, voulaient une tenue et un rang qui les rapprocheraient des maîtres des comptes et des grands audienciers et les éloigneraient des huissiers jugés moins dignes qu'eux. On se mit alors à codifier non seulement l'ordre dans les processions, mais également la taille des manteaux et des chapeaux, celle des tabourets pendant les cérémonies, la teinte des souliers, et ainsi de suite. Ces conflits sur les tenues, les protocoles, les processions et les rangs concernaient aussi les relations entre les membres des différents métiers et corporations. Au XVIIIe siècle, il fallut régler la délicate question de la place des princesses et des princes de sang royal, ainsi que celle des enfants naturels, nouvellement reconnus sur pression des monarques, ce qui n'allait pas sans heurts, et de leur position protocolaire vis-à-vis de la haute noblesse, duc et pair en particulier. Comme de juste, les mémorialistes se lamentaient régulièrement en constatant la disparition de l'ordre protocolaire ancien, celui du champ de bataille, ordre guerrier et féodal, symbolisé par le banquet fondateur de la chanson de Roland, où les 12 pairs entourait le roi, et où personne n'ignorait ni ne contestait les règles hiérarchiques régissant l'ordre d'accès aux plats et aux viandes. Il reste que ces querelles sur le rang au sein de l'ordre curial, celui de la cour et de la monarchie absolue, rappellent un point central, que la société d'ordre était encore bien vivante à la fin de l'Ancien Régime, et que les complexes hiérarchies symboliques qui la caractérisaient étaient loin d'être dissoutes dans l'échelle unidimensionnelle de l'argent et de la propriété. Ce n'est qu'après la Révolution que les hiérarchies sociales seront radicalement transformées. La noblesse, une classe propriétaire entre Révolution et Restauration. Plus généralement, pour bien comprendre la relation de domination que le clergé et la noblesse entretenaient avec le reste de la société d'Ancien Régime, il est évidemment impossible de s'en tenir à la question des effectifs. Il faut aussi, et surtout, analyser les ressources inséparablement symboliques, patrimoniales et politiques dont disposaient les deux ordres privilégiés. Certes, le clergé et la noblesse ne représentaient que quelques pourcents de la population sous l'Ancien Régime, et cette part déclinée au cours du siècle précédant la Révolution. Mais cela ne doit pas occulter une réalité essentielle. Quelle que soit l'ampleur des transformations en cours, les deux classes dominantes continuaient de concentrer une part considérable de la richesse matérielle et du pouvoir économique et politique à la veille de la Révolution de 1789. Les sources disponibles sont là encore imparfaites, mais les ordres de grandeur sont relativement clairs, au moins pour ce qui concerne les propriétés terriennes. Autour de 1780, la noblesse et le clergé rassemblent environ 1,5% de la population totale, mais détiennent près de la moitié des terres du royaume, autour de 40-45% au total pour les deux ordres d'après les estimations disponibles, dont environ 25-30% pour la noblesse et 15% pour le clergé, avec de très fortes variations entre provinces, à peine 5% pour le clergé dans certaines régions et plus de 20% dans d'autres. La part des deux ordres privilégiés dans la propriété terrienne atteint même 55-60% si l'on inclut la capitalisation de la dîme ecclésiastique, qui certes ne correspond pas à une propriété au sens strict, mais qui procure des avantages tout aussi importants, puisqu'elle permet à l'Église de bénéficier de façon permanente d'une part importante du produit agricole de l'ensemble des propriétés du royaume. La part des ordres privilégiés serait encore plus élevée si l'on tentait de prendre en compte les avantages que procurent les pouvoirs juridictionnels et autres droits seigneuriaux et régaliens attachés à l'exercice des droits de propriété de la noblesse et du clergé sous l'Ancien Régime, ce que nous n'avons pas cherché à faire ici. La Révolution va bouleverser radicalement cet équilibre, en particulier pour le clergé. Les propriétés ecclésiastiques ont été presque entièrement réduites à néant à la suite de la confiscation des biens de l'Église, et la dîme a été purement et simplement supprimée. Par comparaison, les propriétés terriennes de la noblesse ont été approximativement divisées par deux, et se sont en partie relevées par la suite, si bien que la rupture est moins nette. Dans le département du Nord, par exemple, la part des terres détenues par les deux ordres privilégiés est passée de 42% en 1788, 22% pour la noblesse, 20% pour le clergé, à guère plus de 12% en 1802, 11% pour la noblesse, moins de 1% pour le clergé. Les estimations disponibles pour d'autres départements confirment ces ordres de grandeur. Au total, on peut considérer que la part de la noblesse dans le total des propriétés était comprise entre un quart et un tiers à la veille de la Révolution, et que cette part est comprise entre un dixième et un cinquième au début du XIXe siècle, ce qui reste extrêmement élevé. Encore faut-il préciser que ces proportions sous-estiment le poids véritable de la noblesse au sein des plus hauts patrimoines, qui était beaucoup plus élevé que sa part dans le total des patrimoines, et qui atteignit un niveau considérable à la fin de l'Ancien Régime, avant de retrouver des niveaux très importants à la suite de la Restauration. Sur la base des archives successorales, on peut ainsi estimer que la part des nobles, dans les 0,1% des successions parisiennes les plus élevées, était d'environ 50% à la veille de la Révolution, avant de chuter à environ 25-30% vers 1800-1810, puis de remonter jusqu'à 40-45% dans les années 1830-1850, à l'issue de la période des monarchies censitaires, avant de se réduire graduellement durant la seconde moitié du XIXe siècle pour atteindre environ 10% autour de 1900-1910. Voir graphique 2.2. plusieurs points méritent d'être soulignés au sujet de cette évolution. Tout d'abord, ces résultats montrent qu'un groupe de petite taille, les non-nobles représentant à peine 1%-2% de la population parisienne, tout au long de la période 1780-1910, peut concentrer une part considérable des plus hauts patrimoines, et par conséquent, du pouvoir économique et financier. Il faut également préciser que ces estimations reposent sur la numérisation de plusieurs centaines de milliers d'actes successoraux dans les archives parisiennes, collecte que nous avons réalisée avec Gilles Postelvinet et Jean-Laurent Rosenthal. La source a ses limites. En particulier, nous avons classifié les morts comme nobles sur la base des noms de famille figurant dans les actes, méthode qui pose de multiples difficultés et qui, par construction, ne peut fournir que des résultats approximatifs. Il est difficile de procéder autrement dans la mesure où la noblesse perd toute définition légale officielle en France après l'abolition des privilèges de 1789, si l'on excepte le mince groupe des pairs de France entre 1815 et 1848 et le cas de la noblesse d'Empire, et qu'en tout état de cause, sa signification légale n'est que très imparfaitement définie avant 1789. Il n'en reste pas moins que les tendances observées sont extrêmement nettes, à la fois concernant la remontée de la période 1810-1850 et la baisse de la période 1850-1910. Soulignons également que ces données proviennent du système d'enregistrement des successions mis en place sous la Révolution, système qui était étonnamment universel pour l'époque et sans équivalent dans les autres pays, puisqu'il concernait l'ensemble des propriétés, quelle que soit leur nature. Terres, biens immobiliers et professionnels, actifs financiers, etc. Et leur montant. Et bien sûr, quel que soit le statut du propriétaire, noble ou roturier. Ce système s'est appliqué tout au long du XIXe siècle et jusqu'à nos jours, avec des taux extrêmement réduits de la Révolution jusqu'à la Première Guerre mondiale, à peine 1-2% pour les transmissions en ligne directe, c'est-à-dire entre parents et enfants. Cette source fournit un observatoire unique au monde pour analyser l'histoire longue de la propriété, et nous y reviendrons lorsque nous étudierons l'évolution de la concentration des patrimoines au sein de la société de propriétaires qui se développe en France au cours du XIXe siècle et du début du XXe siècle. À ce stade, notons simplement qu'elle permet également de quantifier l'importance de la noblesse dans les hauts patrimoines et son évolution. Enfin, les évolutions indiquées sur le graphique 2.2 montrent l'importance des facteurs proprement politiques et idéologiques, ainsi que des facteurs militaires et géopolitiques, dans la transformation des sociétés ternaires. Certes, la réduction de la taille de la noblesse était déjà en cours au XVIIIe siècle, ce qui peut s'analyser comme la conséquence d'un lent processus socio-économique de renouvellement des élites et de formation de l'État, et des stratégies nobiliaires malthusiennes qui en découlent. De même, la baisse de la part de la noblesse dans les plus hautes fortunes entre 1850 et 1910 reflète pour partie des facteurs socio-économiques, en particulier la croissance des secteurs industriels et financiers, au sein desquels la vieille élite nobiliaire joue souvent les seconds rôles face aux nouvelles élites bourgeoises et marchandes. Il reste qu'une approche purement socio-économique aurait bien du mal à rendre compte de la chute abrupte de la part de la noblesse entre 1780 et 1800-1810, suivie d'une très forte remontée jusqu'en 1840-1850. La chute reflète l'impact des redistributions menées sous la Révolution, qui ne doit toutefois pas être exagérée, ainsi que nous le verrons dans le chapitre suivant quand nous étudierons le nouveau régime de propriété mis en place par les législateurs révolutionnaires, et surtout l'exil temporaire d'une partie de la noblesse. À l'inverse, la remontée s'explique avant tout par le retour de la classe nobiliaire sur le territoire national lors de la Restauration de 1814-1815, elle-même largement due aux défaites des armées napoléoniennes face à la coalition des monarchies européennes, ainsi que par les faveurs dont la noblesse a bénéficié en France au cours de la période des monarchies censitaires 1815-1848. On pense en particulier au fameux « milliard des immigrés », mesure emblématique débattue dès les premières années de la Restauration, finalement adoptée en 1825 et qui visait à transférer aux ex-nobles émigrés des sommes considérables, près de 15% du revenu national de l'époque, financé entièrement par les contribuables et l'endettement public, pour les dédommager des terres et des loyers perdus sous la Révolution. Dans le même temps, les gouvernements des rois Louis XVIII puis Charles X, tous deux frères du défunt roi Louis XVI, guillotiné en 1793, dirigés par le comte de Villèle, imposèrent à Haïti une indemnité considérable de 150 millions de francs or, plus de 3 années de revenus haïtiens de l'époque, afin d'indemniser les ex-propriétaires d'esclaves, dont une large part d'aristocrates, pour leur perte de propriété négrière suite à l'indépendance de l'île. Plus généralement, tout indique que le système judiciaire, comme l'appareil étatique dans son ensemble, prennent une tournure très nettement pronobiliaire entre 1815 et 1848, en particulier dans le cadre de l'abondant contentieux juridictionnel engendré par les redistributions opérées pendant la Révolution. Cette chronologie politique montre que la transformation des sociétés trifonctionnelles anciennes en sociétés de propriétaires s'est faite à la suite de multiples rebondissements, en France comme d'ailleurs dans l'ensemble des sociétés européennes. La césure de 1789, aussi importante soit-elle, laissait encore ouvertes plusieurs trajectoires possibles.